Aujourd'hui dans Réponse avec Bailey Scanlay.
Vous me regardez peut-être en ce moment et vous êtes au milieu d'une violente tempête. Les vents hurlent. Les vents soufflent peut-être sur vos enfants ou sur votre santé. Vous êtes peut-être en train de subir un coup de vent violent concernant votre travail. Vous êtes sauvagement persécuté ou peut-être que cela a à voir avec vos finances. Vous n'avez que des ennuis. Les deux personnes de cette parabole racontée par Jésus ont entendu la parole. La différence réside dans l'action. Elles ont toutes deux entendu, mais les ennuis ont détruit celle qui a entendu la parole et ne l'a pas mise en pratique. La maison de celle qui a entendu la parole et l'a mise en pratique a tenu bon parce qu'elle était bâtie sur le rocher de la parole de Dieu.
Bonjour, je suis Bailey Scanlay. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de crises relationnelles, d'un problème de santé ou simplement de la découverte de votre raison d'être. Une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses.
Bonjour, ici Bailey Scanlay. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de vous être joints à moi. Si vous étiez présent la semaine dernière, nous avons parlé de trois vents différents qui représentent les défis auxquels chaque croyant est confronté dans sa vie. Ces vents sont mentionnés dans le Nouveau Testament et sont métaphoriques. Ils représentent littéralement trois choses auxquelles nous devrons tous faire face. La fois passée, nous avons parlé du vent du doute. Dans le livre de Jacques, il est écrit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. » La personne qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Et cette personne est partagée et instable. Elle ne recevra rien de ce qu'elle demande à Dieu. La personne qui est partagée et instable ne recevra pas la sagesse qu'elle demande, ni quoi que ce soit d'autre. Nous avons parlé de conquérir le vent du doute. Allez sur notre chaîne YouTube ou sur notre site web et écoutez ce message. Je vous encourage à le faire. Je voudrais maintenant aborder un autre type de vent auquel nous serons tous confrontés en tant que croyants, à savoir le vent de la fausse doctrine. Nous avons abordé le vent du doute la dernière fois. Penchons-nous à présent sur le vent de la fausse doctrine. Éphésiens 4, 11. Je vais lire quelques versets jusqu'au verset 16, alors écoutez attentivement. C'est lui, Jésus, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Pourquoi ? Verset 12. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Il nous exhorte à ne plus être des enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine. Comment conquérir ce vent de la fausse doctrine? Tout d'abord, c'est assez simple et cela rejoint un peu ce que nous avons partagé dans le dernier message. Lisez votre Bible. Apprenez à mieux connaître le Fils de Dieu. Certaines personnes sont littéralement emportées par tout vent de doctrine. Quel que soit le vent qui souffle sur elles, elles se laissent ballotter et emporter par lui. À ce stade de ma vie, je suis pasteur depuis environ 42 ans. Et je suis dans le ministère depuis plus longtemps que cela. J'ai beaucoup observé les autres. J'ai vu de nombreuses personnes s'accrocher aux moindres nouveaux objets brillants qu'on leur met sous les yeux, à tout ce qui est beau et nouveau. Que ce soit conforme aux Écritures ou non, elles se laissent entraîner dans des extrêmes. J'ai vu cela se produire à maintes reprises. Les versets que nous venons de lire en Éphésiens parlent du corps solidement uni, pas seulement attaché, mais solidement uni. Le corps est solidement uni, le corps tout entier est solidement uni, bien coordonné, relié, et chaque partie fournit quelque chose. Il dépeint l'image d'une communauté religieuse locale. La communauté religieuse offre une sécurité que nous n'avons pas lorsque nous sommes isolés. Lorsque vous avez des relations avec d'autres croyants dans une église, ils vous conseilleront, si vous proposez quelque chose de bizarre ou une doctrine bizarre. Ils vous poseront des questions et vous mettront en garde si vous vous associez à des enseignements extrêmes et non scripturaires ou à des gens qui colportent des doctrines étranges. L'une des premières choses qu'un loup veut faire est de vous séparer du troupeau. Vous devenez vulnérable lorsque vous n'êtes pas rassemblé avec le reste du troupeau. Les Écritures disent, dans le livre des Proverbes, que le salut réside dans un grand nombre de conseillers. Attachez-vous à une église et impliquez-vous dans l'église. C'est bien d'assister au culte, mais impliquez-vous dans un cercle plus restreint de croyants. Cela représente une certaine sécurité. Vous ne risquez pas de vous laisser entraîner dans une doctrine étrange ou quelque chose qui n'est pas conforme aux Écritures si vous avez des amis prêts à vous confronter et à vous remettre en question. C'est également important. C'est la troisième chose. Premièrement, lire la Bible et connaître les Écritures. Deuxièmement, faire partie d'une église. Troisièmement, il est important de reconnaître l'autorité spirituelle et de s'y soumettre. Les versets que nous venons de lire en Éphésiens commencent par le fait que Jésus a donné différents dons ministériels pour équiper les saints, apôtres, prophètes, évangélistes, bergers et enseignants, pour équiper les saints et édifier le corps. Rendez des comptes aux leaders de votre Église. Écoutez, je ne fais pas allusion à un type de leadership dictatorial et autoritaire. Cependant, il est inévitable que Dieu nomme des leaders dans l'Église et qu'il leur donne à la fois la vision et la vigilance nécessaires pour conduire le troupeau. Écoutez ces versets en Actes 20, 28 et 29 qui disent « Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau. » Paul écrit à un groupe de leaders rassemblés. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu. Littéralement, nourrissez l'Église de Dieu. Le berger la nourrit et la conduit. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. En tant que leader et pasteur, je suis capable de flairer les loups. Dieu m'a donné à la fois la vision et la vigilance nécessaires pour guider et conduire le troupeau. C'est ce que dit la Bible aux croyants en Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. C'est une lourde responsabilité. Je dois veiller sur l'âme des autres. Je traite de questions doctrinales depuis la chair. Des choses se présentent parfois. Il y a la dernière mode, vous amenez un groupe de personnes à faire telle ou telle chose. Il peut s'agir d'une vérité poussée à l'extrême, d'un combat spirituel ou d'autres choses. Sans citer de nom, je traiterai de ces questions en chair et je donnerai la vérité sur ces questions. De temps en temps, moi-même ou d'autres leaders de l'Église parleront à quelqu'un individuellement d'une doctrine à laquelle il s'est accroché ou de quelque chose qu'il adopte. Peut-être qu'il a commencé à fréquenter des gens qui présentent un enseignement extrême ou qui ont adopté un comportement extrême et non scripturaire. Nous prenons soin des autres. Nous avons la responsabilité de veiller sur leur âme, mais nous ne pouvons aider que ceux qui nous écoutent. Je vais résumer ce point. Voici trois choses qui vous aideront à conquérir le vent de la fausse doctrine. Premièrement, lisez votre Bible. Familiarisez-vous avec la vérité. Deuxièmement, fréquentez une bonne église locale qui croit en la Bible. Je sais que je m'adresse à des gens du monde entier en ce moment, mais je parie qu'il y a une bonne église qui croit à la Bible dans votre région. Même si vous devez peut-être conduire plus loin que vous ne le souhaiteriez, cela vaut la peine de faire partie d'un groupe où vous pouvez être nourri de la parole de Dieu et veillé par des leaders spirituels authentiques, appelés, qui aiment Jésus et le troupeau de Dieu. Troisièmement, soumettez-vous et rendez des comptes aux leaders que Dieu a placés dans l'église. Ainsi, vous ne serez pas emporté par un vent de doctrine étrange. Très bien, parlons d'un autre vent auquel, en tant que croyants, nous devons faire face et que nous pouvons conquérir. Il s'agit du vent des problèmes. En Matthieu 7, 24 à 27, Jésus dit « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. » Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Nous sommes tous confrontés à des tempêtes. Elles surviennent dans la vie de chaque croyant. Nous sommes confrontés à des problèmes et c'est tout simplement inéluctable. Peu importe que vous soyez un croyant mature ou un jeune croyant, nous vivons dans un monde déchu, c'est-à-dire un monde rempli de problèmes. Vous me regardez peut-être en ce moment et vous êtes au milieu d'une violente tempête. Les vents hurlent. Les vents soufflent peut-être sur votre mariage et menacent de détruire votre mariage et votre relation avec la personne à laquelle vous avez promis votre vie. Les vents soufflent peut-être sur vos enfants ou sur votre santé. Peut-être êtes-vous en proie à un coup de vent violent concernant votre travail. Vous êtes sauvagement persécuté. Peut-être que cela a à voir avec vos finances. Vous n'avez que des ennuis. Il y en a de toutes les formes et de toutes les tailles. Les vents des problèmes soufflent dans chacune de nos vies. Les deux personnes de cette parabole racontée par Jésus ont entendu la parole. La différence réside dans l'action. Elles ont toutes deux entendu, mais les ennuis ont détruit celle qui a entendu la parole et ne l'a pas mise en pratique. La maison de celle qui a entendu la parole et l'a mise en pratique a tenu bon, parce qu'elle était bâtie sur le rocher de la parole de Dieu. Deux personnes assises à l'église peuvent entendre le même sermon et obtenir des résultats complètement différents dans leur vie. L'une entend la parole, dit « Amen », prend de bonnes notes, mais ne la met pas en pratique, tandis que l'autre la met immédiatement en pratique. Il peut s'agir d'un message sur la nécessité de bénir ceux qui vous maudissent, de faire du bien à ceux qui vous détestent, de prier pour ceux qui vous maltraitent, etc. Certaines personnes entendent ce message et disent « Amen », mais ne le mettent pas en pratique. Mais une autre personne dit « Je n'ai pas envie de faire ça, cela va être la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais je vais parler gentiment à cette personne au travail qui a été tellement hostile et méchante envers moi. » Et elle met la parole en pratique. Je me souviens du jour où ma femme et moi nous sommes mariés. Ma femme est infirmière diplômée. Sa licence est à jour, mais elle n'a pas travaillé comme infirmière depuis que nous avons fondé Cottonwood Church en 1983. Depuis ce jour, elle travaille à temps plein à l'église. Ma femme est un véritable atout et j'aimerais lui faire un petit clin d'œil. Au début, c'est elle qui s'occupait du ministère des enfants. À un moment donné, nous avions 600 enfants. C'était il y a plus de 30 ans. Nous avions 600 enfants et des centaines de bénévoles. Elle a développé l'ensemble du ministère, elle a élaboré l'ensemble du programme. Nous avons dû embaucher plusieurs personnes pour remplir le rôle qu'elle jouait. Ensuite, elle est passée à un autre secteur de l'Église. Elle l'a fait grandir et a recruté des bénévoles. Tout cela s'est développé et nous avons dû embaucher plusieurs personnes pour prendre sa place. C'est ce qu'elle a fait tout au long de l'histoire de notre Église. Lorsque nous nous sommes mariés, je travaillais comme pasteur adjoint dans une autre église. J'ai travaillé pendant 2 ans au service d'un autre homme dans sa vision. Janet travaillait plusieurs jours par semaine comme infirmière. Un de ses supérieurs hiérarchiques la maltraitait constamment. Nous avons prié pour cette personne. C'est ce que disent les Écritures. Priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent et bénir ceux qui vous maudissent. Nous prononcions des paroles de bénédiction sur elle. Nous prions pour cette femme et pour la situation. Je lui disais, écoute ma chérie, il faut que tu ailles là-bas et que tu sois gentille avec cette personne. Réponds avec gentillesse et tu hériteras d'une bénédiction. C'est ce qu'enseignent les Écritures. Un jour, Janet a reçu une prime. C'était une prime assez importante. Elle m'a dit que, selon elle, elle n'était pas censée recevoir une telle prime. Mais elle avait le chèque dans les mains. Je lui ai dit d'aller le rendre. Elle a voulu le rendre et sa superviseure lui a dit « Non, je l'ai signé. Cette prime est pour toi. » Janet a ramené la prime à la maison et m'a répété qu'elle n'avait toujours pas l'impression que c'était juste. D'autres personnes n'ont pas eu de prime et elle n'est pas certaine d'y avoir droit. Je lui ai dit de la ramener afin d'avoir l'esprit tranquille. Elle est retournée voir sa superviseure qui lui a dit « Écoute, je te donne cette prime. Prends-la maintenant. » Janet est revenue à la maison avec cette prime. Nous avons donc décidé d'accepter la prime. Nous avons donc été déposer cette somme d'argent à la banque. Cette superviseure, qui était sa persécutrice, est devenue sa plus grande défenseuse. Parce que nous avons mis la parole en pratique, Dieu a changé les choses. Je me souviens qu'une dame m'a appelé un jour. Notre église était très petite à l'époque. Elle s'appelait Sharon. Elle m'a dit qu'elle était malade et qu'elle souffrait d'une terrible grippe. Elle avait l'impression qu'elle allait s'évanouir. Elle était en train de lire le livre de Jacques où il est écrit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» qu'il appelle les anciens de l'église. « Pasteur, si vous êtes un ancien, venez moindre d'huile et priez sur moi la prière de la foi. » Je lui ai répondu, j'arrive dans 15 minutes. J'ai pris ma petite bouteille d'huile, je suis monté dans la voiture, je suis allé chez elle et j'ai frappé à la porte. Sharon a ouvert la porte et m'a dit, je souffre tellement, j'ai le pire des maux de tête. Je lui ai dit de se préparer. Nous sommes restés sur le seuil, je l'ai ointe d'huile et j'ai prié pour elle. Elle s'est mise à crier. C'était incroyable. Elle a dit, « Le mal de tête est parti, la fièvre est tombée !» Elle s'est mise à marcher autour de sa maison, criant à tue-tête, en levant les mains et en louant Dieu. Je l'ai laissée là, après avoir loué Dieu avec elle pendant un temps. Elle marchait encore autour de la maison et louait Dieu. Elle a entendu la parole et l'a mise en pratique. Jacques a dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter. » En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et oublie aussitôt comment il était. J'aimerais partager une autre histoire avec vous. C'est une anecdote à propos de Spencer, notre plus jeune fils. Lorsqu'il était petit garçon, il regardait un dessin animé biblique que nous avions chez nous. Celui qu'il regardait à ce moment-là portait sur l'idolâtrie. C'était à propos de Gédéon, qui est allé détruire l'idole dans la maison de son père. Je suis à peu près sûr qu'il s'agissait de cela. Le thème de ce dessin animé spécifique était que nous ne devons adorer que Dieu et que nous ne devons pas adorer les idoles. Il me semble que les protagonistes étaient un renard et un raton laveur ou quelque chose comme ça. C'était mignon pour les enfants avec un bon principe biblique. Même dans le Nouveau Testament, en 1 Jean, il est écrit « Petits enfants, gardez-vous des idoles ». C'est le dernier verset de ce livre. Bref, Spencer avait fini la cassette VHS. Je pense qu'il devait avoir environ 4 ans à l'époque. Bref, Spencer retourne dans sa chambre. Tout à coup, nous entendons comme un fracas, quelque chose qui s'écrase. Nous nous précipitons tous dans la chambre. Son frère aîné, sa sœur jumelle, sa mère et moi, nous tenions là. Spencer avait un énorme sourire sur le visage. Harrison avait gagné un trophée de baseball. Son équipe avait remporté la première place. Il était si fier. Il avait exposé le trophée de la première place sur sa commode et à présent, il était cassé. Spencer tenait les morceaux cassés dans ses mains et a dit « Je l'ai fait, papa, j'ai cassé l'idole !» Son frère s'est mis en colère. « Spencer, tu as cassé mon trophée de baseball !» Janet et moi avons éclaté de rire. « Comment pouvez-vous le punir pour ça ? Il a brisé l'idole. Il a mis la parole en pratique tout comme Gédéon a brisé l'idole dans l'histoire de la Bible. » Nous avons ri, ri et ri. C'est ce genre de cœur que Dieu recherche. Un cœur qui entend la parole et qui décide de la mettre immédiatement en pratique. Que cette parole concerne le domaine de vos finances, que cette parole concerne votre mariage, que cette parole concerne votre santé, que cette parole concerne l'éducation de vos enfants, que cette parole concerne la réponse à un ennemi, ou qu'elle concerne votre fréquentation de l'Église. Les Écritures disent qu'à l'approche du jour du retour de Christ, nous ne devons pas abandonner notre assemblée. Nous devrions nous encourager mutuellement à nous rassembler à l'approche de ce jour. Nous devons mettre cette parole en pratique. Je sais que quelqu'un me regarde parce que je n'avais pas prévu de dire cela. Vous avez fait l'expérience de Jésus, mais vous n'allez pas à l'Église pour une raison ou une autre. Vous devez aller à l'Église. Implantez-vous dans une église. Vous devez mettre la parole de Dieu en pratique. Vous devez mettre la parole en pratique et pas seulement l'écouter. Si vous voulez vaincre les vents des problèmes qui s'abattent sur vous, vous devez mettre la parole en pratique. Nous avons abordé trois choses dans le dernier message, et cette fois-ci. Tout d'abord, il y a le vent du doute. Vous priez et demandez à Dieu la sagesse ou autre chose et une petite voix vous dit « Tu ne crois pas vraiment » ou « Tu ne te sens pas différent, Dieu ne t'a pas entendu, tu ferais mieux de prier à nouveau. » Vous êtes partagé. Je ne sais pas si Dieu m'a entendu, je ne sais pas si Dieu répond. Il faut rester ferme. Une fois que vous avez prié, il est temps de remercier Dieu et de le louer pour la réponse. La façon de rester ferme, mon ami, et de conquérir le vent du doute est d'implanter la parole de Dieu dans votre cœur par l'acte et l'art de la méditation. Méditez la parole de Dieu, lisez-la encore et encore. Nourrissez-vous-en la foi et le sous-produit naturel de l'implantation de la parole intérieure. Vous pouvez conquérir le vent du doute en implantant sa parole dans votre vie. C'était le message de la semaine dernière. Aujourd'hui, nous avons commencé à parler de conquérir le vent de la fausse doctrine. Écoutez, les vents de la fausse doctrine soufflent tout le temps dans l'Église. Ne vous laissez pas entraîner. Ne vous laissez pas emporter par ces vents. Soyez un amoureux de la Bible. Premièrement, ayez une histoire d'amour avec votre Bible. Deuxièmement, soyez implanté dans une église. Troisièmement, soumettez-vous à l'autorité spirituelle. Ensuite, nous avons parlé des vents des problèmes. Si nous voulons les conquérir, nous devons écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Décidez dans votre cœur qu'à partir du moment où vous comprenez ce qui est écrit, vous allez agir. Je vais vous donner quelque chose que vous pouvez mettre en pratique dès maintenant. Jésus a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il a dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle ». Croyez au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Mettez votre confiance en lui. La Bible dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter ». C'est le don de Dieu. Si vous croyez dans votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, si vous le confessez de votre bouche comme Seigneur, vous serez sauvés. Croyez-vous que Jésus est mort sur la croix pour vos péchés? Je vous le dis, il l'a fait. Il a pris votre place et a porté la peine pour vos péchés sur le calvaire. Il a versé son sang précieux pour vous afin de vous libérer et de vous donner une nouvelle vie. Si vous croyez qu'il est ressuscité des morts après ce grand sacrifice, si vous êtes prêt à incliner votre cœur devant lui et à le confesser comme Seigneur, il vous fera entrer dans une relation avec lui-même et avec le Père. C'est ce qu'on appelle le salut. Prions ensemble. Priez à haute voix. Prononcez ces mots à Dieu. « Oh, Dieu, je viens à toi maintenant. Je crois de tout mon cœur. Dites-le. Je crois que Jésus est ton Fils. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts. Jésus, je te confesse maintenant comme mon Seigneur. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Je prie que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous réjouissons de vous revoir. D'ici là, que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. »
Nous connaissons tous des moments difficiles dans la vie. Les tempêtes de la vie peuvent toucher tout le monde. Mais peu importe ce que vous traversez, Dieu a des réponses pour vous. Il connaît un chemin que vous pouvez suivre. J'en ai moi-même fait l'expérience. Dieu m'a libéré du désespoir le plus profond et de la toxicomanie. Je suis convaincu qu'il peut aussi vous aider. Je vous raconte mon histoire dans le mini-livre « Il y a toujours de l'espoir ».
Téléchargez gratuitement le livre au format PDF. Il vous suffit de vous rendre sur belez-conley.fr/espoir pour découvrir comment Dieu vous offre à vous aussi un nouvel espoir.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.